partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Chers auditeurs de Canal Académie, je suis extrêmement heureux de recevoir aujourd'hui Stelios Pharangis, qui est un être, de mon point de vue, tout à fait exceptionnel. Je vais un peu vous présenter Stelios Pharangis, qui, vous l'avez senti, est d'origine grecque par ses parents. Et il faut tout de même rappeler que le père de Stelios Pharangis s'est battu, était un homme courageux, sous les ordres de Franché d'Hespérée sur le front de Salonique. On a tendance à beaucoup oublier ces êtres courageux qui se sont battus pour des valeurs importantes à l'époque. Phénomène intéressant aussi, j'ajouterai que le nom patronymique Pharangis signifie sans doute franc, français depuis les croisades, ce qui n'est pas rien. Alors, qui est Stelios Pharangis ? Bien, je suis certain que un certain nombre d'entre vous, vous avez entendu parler de ce monsieur, et je vais vous rafraîchir la mémoire. Cet homme licencié de géographie, agrégé d'histoire, docteur ès lettres avec une thèse magistrale sur la notion de sacré chez Condorcet, est en fait un spécialiste de sémantique historique. Et de 1984 à 2002, il a travaillé auprès de François Mitterrand et de Jacques Chirac. En 2002, cet homme qui a énormément fait pour la francophonie a été nommé inspecteur général de l'éducation nationale et nous le recevons aujourd'hui. Mais avant de le recevoir, je dois préciser que Stelios Pharangis a écrit des ouvrages qui ne sont pas toujours assez connus parce qu'évidemment la francophonie est quelque chose de particulier. Et alors ses livres, les principaux livres, Textes et propos sur la francophonie, Paris, Richelieu-Senghor, 1986. Francophonie et humanisme, débat et combat, Paris, édition Tougui, en 1989. Ensuite, j'ajouterai Francophonie, très beau livre aussi, Francophonie fraternelle et civilisation universelle, Paris, édition de l'Espace européen, 1991. Et pour ceux qui ont une âme de philosophe, Philosophie de la francophonie, toujours par Stelios Pharangis, L'Harmattan, 1998. Alors, cher Stelios Pharangis, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir. Et ma première question, d'où vient votre intérêt pour la langue ?
Je vous remercie de bien vouloir m'accueillir dans ce lieu prestigieux. Et pour commencer, je dirais que dans mon enfance, j'étais bilingue. Plus exactement, j'ai d'abord parlé français, me refusant à parler grec, la langue de mes parents, mes parents parlaient les deux langues. Et ensuite, je me suis mis au grec. Et j'ai été éloquent dans les deux langues, à tel point que je faisais pleurer les dames qui m'écoutaient lors des fêtes scolaires et que mes instituteurs ouvraient les portes communicantes des classes pour que les deux classes adjacentes puissent m'écouter lorsque je récitais. J'ai eu donc le goût de la langue et en particulier de l'élocution. Peut-être que mon bilinguisme m'a incliné à m'intéresser à la langue. Je me souviens d'une anecdote précise. À l'école élémentaire, l'institutrice inscrit au tableau, c'était l'heureuse époque. On écrivait des mots, on calligraphiait des mots au tableau pour que les élèves puissent s'en pénétrer. Et elle écrit « métamorphose ». Et elle dit « Mes enfants, sans doute, vous ne connaissez pas ce mot ». Et moi, je lève la main en disant « Mais si, madame, je connais ce mot parce que c'est un mot très familier pour moi en grec, transformer, transformation ». Et alors, j'étais aux yeux de mes camarades, promu, évidemment, et ce qui m'a donné, m'a valorisé. Mon intérêt pour la langue passe aussi par mon goût pour l'histoire. Très rapidement, j'ai été lauréat du concours général à plusieurs reprises et puis j'entame des études d'histoire à la Sorbonne. J'ai eu la chance d'être un étudiant d'un professeur exceptionnel dont je fus plus tard le collaborateur, qui s'appelait Alphonse Dupron, qui m'a initié à une discipline rare et pour moi essentielle, la sémantique historique, c'est-à-dire le suivi des mots, leur surgissement et leur évolution de sens dans l'histoire. Quand sort le mot démocratie ? Quand sort le mot monarchie absolue ? Quand sort laïcité ? Quand sort capitalisme, consort, libéralisme. Bref, suivre l'histoire pas à pas des concepts, des notions. Parce que s'il y a un point commun entre l'Antiquité grecque et le classicisme français, c'est ce souci de la clarté, de la netteté des mots-concepts. Comme disait Saint-Gore, l'anglais est plus riche que le français en mots concrets. Mais le français se distingue, comme la langue grecque, qui a été ciselée par les rhéteurs du 6e, du 5e et du 4e siècle, par le fait qu'on aime à clarifier les concepts qui transcendent les choses particulières. En français, on dirait l'informatique très vite, alors que dans le monde anglo-saxon, on continue longtemps à dire « computer science ». Donc c'est la recherche du mot qui transcende, le mot générique. Voilà pourquoi mon intérêt pour la langue ne s'est jamais démenti à travers les différents épisodes de ma vie.
Écoutez, c'est une réponse à ma première question qui est magnifique. Alors, il y a vraiment quelque chose dans votre carrière qui est tout de même, elle aussi, étonnante. C'est ce passage aussi rapide, je trouve, de l'université, votre alma mater, si j'ose dire, à ce secrétariat général du comité pour la langue française. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la stratégie, enfin, ce qui s'est passé autour de votre nomination? Ça me plairait beaucoup.
Il faut dire que François Mitterrand, Pierre Mauroy, l'un président de la République, l'autre Premier ministre, connaissaient mon inclination pour la langue, mon goût pour l'élocution, pour les discours, pour les écrits aussi. Et il se trouve qu'en 1981, j'ai raté l'élection législative dans le 12e arrondissement de Paris à quelques voix près. 49,9% des voix. Bon, Monsieur Bertrand Delanoë m'a envoyé un télégramme en me disant « Tu as été notre seul nuage dans un ciel bleu ». Bon, et alors, donc, on a cherché pour moi un poste qui puisse convenir à mes dispositions. Et on m'a proposé ce secrétariat général du Haut Comité Langue Française, d'autant plus que, ayant créé un club d'où sont sortis beaucoup, beaucoup d'hommes politiques, il y en a eu un de mes émules qui était devenu entre-temps directeur de cabinet du président de la République, qui s'est souvenu de moi. Et il m'a dit « ça te conviendra tout à fait parce que tu es à la fois passionné de langue, de culture et aussi de rayonnement de la France dans le monde ». Et comme j'ai servi autrefois dans cette structure, je la connais bien, je te propose d'en être secrétaire général. Donc j'ai accepté la proposition que Colliard, Jean-Claude, me faisait au nom du président de la République et du Premier ministre. Et je me suis vu donc à la tête d'un organisme qui avait été créé par le général de Gaulle et Georges Pompidou en 1966. Et alors il se trouve que comme François II, empereur, du Saint-Empire romain germanique, devient François I d'Autriche en rétrogradant de chiffres lorsque a été créé l'Empire d'Autriche après le bouleversement opéré par Napoléon. Et comme Victor Emmanuel II de Piémont devient Victor Emmanuel I d'Italie, moi qui étais le dernier secrétaire général du Haut Comité Langue Française, je fus aussi le premier secrétaire général du Haut Conseil de la Francophonie parce que, dans une conférence de presse, en juin 1982, une journaliste a posé une question au président de la République pour lui demander ce qu'il pensait de la francophonie. Et il a dit qu'il en pensait beaucoup de bien, qu'il entendait agir, œuvrer dans ce domaine, et qu'il faisait confiance à certaines personnes pour qu'elles lui fassent des propositions. Et il a cité notamment un certain Stelio Farangis, dont il appréciait, a-t-il dit devant tous ces journalistes, la fraîcheur et la modernité.
Bon, c'était pas un mince compliment.
Voilà. Bien. Et donc, j'ai fait un rapport et il s'en est suivi la création d'un Haut Conseil de la Francophonie. Le président de la République en a pris lui-même la présidence, alors qu'il ne préside que le Conseil des ministres et le Conseil supérieur de la magistrature. Et le vice-président était le président Léopold Sédar Senghor et moi, le secrétaire général. Nous avons donc constitué ce Haut Conseil qui était original à deux titres. D'abord parce qu'il était présidé directement par le président de la République, et deuxièmement parce que l'institution française, il était composé en majorité de non-français.
Ah oui.
C'est-à-dire que les Français étaient une dizaine, et les autres étaient des personnalités canadiennes, belges, suisses,
voilà,
africaines, maghrébines, vietnamiennes, libanaises, etc.
Ce que les auditeurs ne savent pas forcément, c'est que vous aviez accès direct au président de la République.
Absolument.
Et quelques mots peut-être, parce que M. François Mitterrand était un homme d'esprit, et je pense que vous avez certainement un ou deux très bons mots ou très bons rappels à nous offrir.
Vous savez, il en avait beaucoup de mots, ils étaient très courts, très... Un jour, je lui dis, devant des parlementaires de droite comme de gauche, on raconte que vous seriez apparenté à la famille d'Angleterre, Monsieur le Président, parce que j'ai toujours la liberté de lui poser des questions tout à fait personnelles et audacieuses. Et il me répond d'une manière qui a beaucoup surpris et amusé ceux qui assistaient à la réunion. Il est vrai que la famille d'Angleterre a quelques liens avec la mienne. Et il a raconté donc une histoire qui remontait à longtemps, puisque un hobereau hanovrien avait séjourné en Charente au Moyen-Âge.
Bon, ça c'est... Était-ce son seul côté anglais, disons, ou...
Il parlait difficilement l'anglais.
J'étais
un peu gêné le jour du discours de lancement du tunnel sous la Manche, parce que la reine Elisabeth parlait un français impeccable et que lui avait beaucoup de mal à parler l'anglais.
Et était-il gêné lui-même ou pas vraiment?
Il n'était pas gêné, il prenait quelques cours.
Il prenait quelques cours.
Oui, oui.
Et un bon mot, comme vous avez bien entendu aussi bien connu Jacques Chirac, un bon mot donné par Jacques Chirac.
J'ai beaucoup de mots qui ne me viennent pas tout de suite à l'esprit.
Bien sûr, bien sûr.
Mais j'en ai sur Jacques Chirac. Figurez-vous qu'à peine est-il nommé Jacques Chirac qu'il me confie le soin de préparer une session du Haut Conseil consacrée à l'Asie, Asie et francophonie. Alors je vais donc partout essayer de trouver des documents, des informations sur les rapports entre la langue française et l'Asie. Et je n'ignore pas la célèbre Congrégation d'Orient qui avait été créée par Louis XIV pour francophoniser et christianiser l'Extrême-Orient. Et là, rue du Bac, je trouve un père archiviste qui me trouve intéressé à tout ce qu'il me disait. Et voulant pousser son avantage, il me dit, vous savez, dans notre compagnie, nous avons eu des hommes politiques célèbres, qui ont eu des noms connus. Ah oui, lui dis-je, lesquels? Ben, par exemple, nous avons eu le père Chirac. Alors évidemment, inutile de vous dire que j'ai raconté cette histoire au président de la République, mais c'est pas tout, me dit-il, c'est pas tout. Nous avons eu aussi le père U. Oh, je dis, c'est pas vrai. Mais attendez, attendez, me dit-il, ce n'est pas tout, nous avons eu aussi le père Chevènement. Mais je ne sais pas vrai. Si, si, je vous l'assure. Et alors, il m'ajoute, remarquez bien qu'il n'y a que le père U qui ait été martyrisé.
alors
le président des... Jacques Chirac a beaucoup ri à cette histoire.
Ce sont des mots absolument délicieux. C'est des rappels délicieux. Alors, si vous voulez, vous êtes au cœur d'un nouveau système. Je ne sais pas si on peut appeler ça.
Oui, attendez. Justement, vous faites bien de mettre l'accent sur le cœur du système. Parce que c'est la première fois, avec la création du Haut Conseil de la francophonie, que le mot francophonie entre dans les institutions officielles de la République française. Bon, ça c'est une chose qu'il faut bien voir. Et lorsque nous nous réunissons en 1985 autour du président Mitterrand et du président Senghor, nous faisons tout de suite le vœu, nous formulons tout de suite le vœu que le sommet de la francophonie, dont il avait été question sous Giscard d'Estaing, et qui avait été interrompu par de sombres histoires québéco-canadiennes, notamment,
entre autres,
soit repris par le président François Mitterrand. Et beaucoup de gens essayaient de l'en dissuader. Et moi, j'étais de ceux qui, au contraire, l'y poussaient. Alors, les arguments contre étaient « ce n'est pas le moment ». À quoi François Mitterrand répondait « mais c'est jamais le moment en histoire ».
D'autres lui disaient, mais on va vous accuser de vouloir redorer votre blason la veille des élections législatives de mars 86. Il disait, mais en démocratie, il y a toujours des élections. C'est normal, nous sommes toujours avant ou après les élections. Et puis, troisième argument, on disait, oui, mais vous risquez d'être humilié parce que beaucoup de vos partenaires ne viendront pas, des anciens colonisés, etc. Il dit, cessons de balancer sur cette affaire, le mieux, pour le savoir, hein, s'ils veulent venir ou pas, c'est les inviter formellement. Et ils sont venus plus nombreux qu'on le pensait au premier sommet de la francophonie qui s'est tenu en février 86. Alors le Haut Conseil, dans les premières années, a servi de chambre de réflexion et de proposition et a alimenté les sommets en suggestions. Je me souviens par exemple du président Diouf du Sénégal accueillant le troisième sommet en 89 à Dakar et félicitant le Haut Conseil d'avoir débroussaillé la question de la coexistence des langues en francophonie que nous avions traitée dans une session du Haut Conseil.
Au fond, et c'est très net, vous le dites très bien, ce Haut Conseil a permis, a aidé, terriblement aidé, aux fondations de cette francophonie moderne.
Oui, en la faisant évoluer dans trois sens. Le premier sens qui est un attachement à la langue française tout en essayant de s'ouvrir à la créativité linguistique contemporaine. Malgré le fait que depuis longtemps, en France, on a une réticence par rapport à la néologie. Le mot, quand il surgit au XVIIIe siècle, est empreint de péjoration. Mmh. Oui. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que cette francophonie ne doit pas être gérée par les Français, mais par tous les francophones. C'est à cette époque, d'ailleurs, il faut le saluer, que l'Académie française avait créé la commission de la francophonie, où des mots venus du Canada, du Sénégal, étaient introduits dans le corpus.
En quelle année, ça c'était en...
Je crois que c'était en 80. Alors, j'ai assisté ici, le Premier ministre canadien est venu en grande pompe à l'Académie, saluer l'entrée de foresterie.
86,
oui,
peut-être.
Par là.
Il me semble 86.
Alors, vous voyez, là, c'est un tournant important. Et audace, troisième audace, c'est que francophonie veut dire la coexistence, la cohabitation du français et du flamand, du français et des langues de France, du français et de l'arabe, du français et tamazight, du français et des langues africaines. J'ai créé une notion qui a été reprise ensuite, celle de franco-polyphonie.
Très belle notion d'ailleurs. Très belle notion. Nous conclurons cette première partie de notre entretien, qui évidemment nous entraîne sur mille et une comètes fascinantes, plus fascinantes les unes que les autres. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait si peu, je ne parle pas évidemment du secrétariat général du tout, mais pourquoi il y a eu si peu de langues africaines qui ont été mises en avant, etc., etc. C'est quand même... Est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse de ce côté-là, mais qui n'est pas du tout due au Conseil, au contraire, vous vouliez les promouvoir. Mais pourquoi, dans la réalité, ça a été peu fait, me semble-t-il?
Attention, moi je suis modéré en bien des domaines, et notamment dans ce domaine-là, parce que ce que vous dites est vrai, mais il y a aussi le fait qu'on ne dit pas assez l'œuvre des langues orientales ici, à l'INALCO, en France, où il y a peu de pays qui enseignent et aident des chercheurs dans des langues à la fois de l'Afrique et de l'Asie. Et d'autre part, des linguistes français ont mis en place dans des pays africains des instituts linguistiques pour justement exhumer les langues anciennes, les rendre écrites, essayer de constituer des corpus lexicaux et aussi voir des grammaires.
Donc on peut dire que finalement, tout cela existe, évolue, se fortifie, mais on ne le sait pas assez.
Canal Academy vous propose d'entendre Valéry Giscard d'Estaing présenter les archives de son septennat de 1974 à 1981. Écoutez l'ancien président expliquer comment les archives de la présidence sont non pas des documents privés, mais des archives nationales. Une source majeure pour les études en histoire contemporaine. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademy.com.
Je suis de nouveau avec Stelios Pharangis et nous allons maintenant nous entretenir, cher Stelios Pharangis, de la langue française dans la mondialisation, un sujet très actuel, important et notre avenir.
Bon, il y a différentes manières d'aborder cette grande question. Il y a une toute simple, qui est le rôle international de la langue française. Il faut ne jamais oublier que du traité de Rastatt 1714 au traité de Versailles 1919, il n'y a qu'une seule langue diplomatique internationale, qui est le français. Il ne faut pas oublier non plus que le français jouit d'un statut particulier à l'échelle internationale depuis la création des Nations Unies, puisque c'est non seulement une des 6 langues officielles, mais une des 2 langues de travail des Nations Unies, à la demande d'ailleurs du délégué haïtien. Et puis que ce français joue un rôle important dans l'Union européenne, mais que aussi au sein de la Ligue arabe, de l'Union africaine, etc., etc., de l'Organisation de l'Océan Indien, bref, dans différentes instances internationales, le français a un statut particulier. Ça, c'est une manière d'aborder les choses. Mais il y en a une autre qui me paraît plus importante. C'est, Paul Ricoeur disait, nous vivons une époque d'hypertrophie des moyens et d'atrophie des fins. Cette mondialisation, on ne peut pas être contre, c'est un fait, mais rien ne nous interdit de réfléchir sur ses finalités, son sens, son contenu. Vers quoi veut-on l'incliner, l'infléchir.
Ce qui est souvent occulté.
Occulté. Plusieurs voies se présentent. Soit celle de la médiocrité généralisée, de l'uniformisation par le bas.
Tout Coca-Cola.
Voilà, le désert.
Selon le...
Le tout Coca-Cola, le désert. Ou bien alors, il y a l'autre voie, la juxtaposition de ghettos qui se haïssent, qui s'excluent les uns les autres, le fanatisme, on s'enferme dans des identités souvent mythiques d'ailleurs, et c'est le tout ayatollah, c'est la jungle. La francophonie combat pour que, entre le désert et la jungle, la mondialisation devienne un jardin. C'est là la grande bataille. Et tout à l'heure, nous parlions du mariage du français et des langues en francophonie, ce que j'appelle la francopolyphonie. Voilà un exemple. Corneille disait les exemples vivants sont dans notre pouvoir. Voilà un exemple du mariage de l'unité et de la diversité que la francophonie incarne. Mais il y en a un deuxième. C'est que, tout à l'heure, nous le disions à propos de la commission de la francophonie de l'Académie française, c'est que désormais, des mots créés par des francophones de Belgique, de Suisse, du Maghreb, d'Afrique noire, du Canada, du Québec en particulier, entrent dans la langue française, dans l'espace linguistique francophone international. C'est aussi un mariage. Désormais, c'est une créativité partagée de la langue. Et puis, il y a une troisième manière de marier l'unité et la diversité que nous offrons en exemple dans la mondialisation. C'est le fait qu'une langue, langue médiatrice, comme dirait Xavier Degnaud, sert d'expression à des imaginaires différents, à des histoires différentes. Édouard Monique disait « Je veux inséminer la langue française, je veux ensauvager la langue française. » Sanulo Boutansi, le Congolais célèbre dramaturge et romancier, disait « Je veux tropicaliser la langue française. » Et le célèbre poète haïtien René de Pestre disait « Le français est devenu un lieu d'identité multiple. » C'est-à-dire que une même langue peut exprimer des imaginaires, des univers différents. Et par conséquent, devient une sorte de passerelle entre des mondes différents. C'est le mariage auquel il convient d'aspirer de toutes ses forces, de l'unité et de la diversité. Il nous faut une civilisation universelle qui soit polyphonique.
C'est vrai ce que vous nous dites, Stelios Pharangis, parce que lorsque nous lisons tous ces auteurs venus du monde entier, grâce à eux, nous pénétrons leur univers. Je pense par exemple à Michel del Castillo pour l'Espagne. C'est incroyable comme par moments, dans certaines pages, il sait rendre l'Espagne. Et il y aurait bien d'autres exemples à prendre chez Malouf. Et au passage, est-ce que vous auriez une affection, bien sûr c'est un peu délicat toujours de poser ce genre de questions, mais une affection toute particulière pour quand même 2, 3, 4 auteurs qui sont pour vous un peu comme une lampe de chevet? Puis-je me permettre de vous poser cette question ?
J'ai bien aimé Tahar Ben Jelloun, qui a reçu le prix Goncourt et qui fut membre de notre Haut Conseil de la francophonie dès le départ, à qui le président Senghor et moi avons offert une réception lorsqu'il a reçu ce prix. J'ai aussi beaucoup aimé des auteurs maghrébins, parce que j'ai trouvé qu'il y avait, chez les romanciers, notamment algériens, plusieurs,
mais la force.
Oui, une force, une véhémence que, hélas, notre littérature hexagonale ignore bien souvent. Et
c'est intéressant que le Clésio ait reçu le prix Nobel.
Oui.
Tourné vers justement le monde du désert. Et ce mot désert, qui est magnifique, que vous avez prononcé tout à l'heure, me fait penser.
J'ai beaucoup aimé le désert de Clésio. Je veux dire que ça a été un choc pour moi.
Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, le roman Le désert d'Albert Memmi.
Absolument.
Qui est un très beau livre, fleuri. Ce désert fleuri, d'ailleurs, etc. Voilà. Écoutez, revenons à l'essentiel. Alors, ce qui me paraît être important. Nous sommes, on le voit bien, dans un monde maintenant, depuis d'ailleurs toujours, mais de plus en plus avec cette mondialisation, un monde qui est bousculé partout, tout le monde veut prendre sa place, et c'est normal. Mais alors, notre langue, quelle évolution voyez-vous à notre langue depuis une vingtaine d'années? Est-ce que, comme certains l'ont dit, le pensent en France, c'est le déclin, ce que je ne partage pas du tout personnellement, ou au contraire, ce que l'on peut apercevoir depuis quelques années, depuis même 2001, notre langue, de nouveau, est chérie par des tas de gens dans le monde entier. Quelle est votre vision des choses?
Alors, il y a plusieurs réponses. Premièrement, tout simplement, grâce à la démographie, grâce aussi à l'expansion des médias, audiovisuels notamment, il y a de plus en plus de francophones au Maghreb et en Afrique noire. C'est l'explosion. Il faut bien que nos auditeurs sachent qu'aujourd'hui, la majorité des francophones se trouve en Afrique. Bon, ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, il n'y a jamais eu autant d'auteurs écrivant en français et qui soient des auteurs non français. On disait, après les premières années de la décolonisation, que les choses allaient dépérir d'elle-même, et que la flamme allait s'éteindre quelques années après la décolonisation. Pas du tout, c'est le contraire qui s'est fait. Et le contraire de deux manières, dans le nombre d'auteurs et dans la qualité. Parce que les auteurs qui écrivaient avant la décolonisation, ils écrivaient avec toujours l'œil de l'instituteur dans le dos. Tandis que maintenant, ils ont pris leur autonomie, ils maîtrisent la langue française à leur manière. Ce sont devenus des maîtres et non plus des élèves. Bon. Et puis, on l'oublie trop souvent, jamais il n'y a eu autant d'écrivains issus de pays non francophones.
L'Afghanistan,
Russie, Amérique, quand on a vu un John Little pour ses bienveillantes, etc. Bon, jamais on a eu autant d'écrivains choisissant le français. De même, sans qu'ils y soient obligés. Donc, c'est encore une preuve de la vitalité du français. Il ne faut pas nous endormir sur nos lauriers. D'abord, il faut que les Français aient conscience qu'ils appartiennent à la francophonie, ce qui n'est pas toujours le cas.
Au fond, et là, c'est une question importante que vous venez de soulever, Célio Fargis, c'est en France, on a l'impression, souvent, même encore aujourd'hui, moins qu'avant, mais d'une sorte de stagnation et de... Il faut bien le dire, peut-être par moment, un manque d'intérêt pour toute cette planète francophone, si j'ose dire.
Manque d'intérêt,
peut-être pas,
et manque de sentiment, surtout.
Manque de sentiment.
Le sentiment de la langue, disait Philippe de Saint-Robert à juste titre, et le sentiment d'appartenance à la planète francophone, pour reprendre votre juste expression. Quelque chose va nous sauver, qui pose bien des problèmes, il faut être juste. C'est l'immigration qui, bien souvent, pose beaucoup de problèmes, il faut être honnête de le dire, d'ordre social, pédagogique, dans nos classes. Mais, d'une manière éclatante, on s'aperçoit que, comme je l'ai fait dans un rapport d'inspection générale, si on s'intéressait au fait que cette langue nous unit tous, alors on aurait là une dynamique au lieu d'assister, bien souvent, à des phénomènes d'hostilité, des phénomènes de réticence, des phénomènes d'exclusion, des phénomènes de, quelquefois même de, d'animosité vis-à-vis de la France ou de la langue française. Si on mettait davantage en exergue notre commune appartenance à cette communauté de langue, à ces frères de langue que nous sommes les uns et les autres, je crois que nous aurions là un levier intéressant, non seulement pour la francophonie, pour notre pays. Ceci dit, la francophonie se bat d'une manière que nos concitoyens ne connaissent pas suffisamment. Elle se bat avec succès. Lorsque elle a réussi à établir le lien, c'est un souhait que j'avais formulé à Boutros Ghali et qu'il avait adopté avec enthousiasme, lorsque la francophonie établit des liens fraternels avec la russophonie, l'arabophonie, l'hispanophonie, la lusophonie, qu'advient-il ? Eh bien, lorsque nous déposons à l'UNESCO un projet de convention pour défendre la diversité des expressions culturelles, c'est notre position à nous tous qui est adoptée à la quasi-unanimité le 20 octobre 2005, à deux exceptions près. Vous comprenez ? Ça, c'est une manière qui devrait alerter nos concitoyens sur l'immense, la gigantesque, la fantastique bataille que nous sommes en train de livrer, et quelquefois, en plus, avec succès. Mais il y en a une autre. Dans la mondialisation, dans la gestation d'une civilisation universelle, il y a un souci qui devrait être davantage mis au premier plan. C'est l'hygiène de la pensée. On ne peut pas créer une société internationale et encore moins une civilisation universelle si les uns et les autres ne veillons pas scrupuleusement à l'honnêteté langagière.
Très juste.
Déjà, Quintilien, au premier siècle de notre ère, dans son institution oratoire, parle des bonnes langues et des bonnes monnaies. Il y a des monnaies qui sont de mauvais aloi et des langues qui sont de mauvais aloi. C'est-à-dire, en 1982, aux États-Unis, une université a fait un rapport qui alarmant sur le fait qu'on ne parlait plus la même langue entre États américains. Je parle de la langue anglo-américaine, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
Sans compter le problème de l'hispanophonie. Entre villes américaines, entre quartiers de villes, les mots flottaient, on ne prêtait pas le même sens ici et là aux mêmes mots. Comment voulez-vous communiquer ? Comment voulez-vous établir un commerce social ? Comment voulez-vous établir une démocratie, comme le disait Condorcet, s'il n'y a pas une rigueur au niveau de l'expression langagière ? Et ça, cette bataille contre les monnaies qui flottent, et cette bataille contre les mots qui flottent, c'est la même bataille, c'est la bataille qui joint la justesse à la justice.
J'ai comme l'impression, Stéphane Fargis, que nous avions, je parle de la France, perdu un peu de dynamisme, de force, de, je dirais presque cette troisième voie qui est essentielle au monde pour la diversité. Et j'ai l'impression que depuis 2001, hélas, il y a eu de terribles événements, que depuis 2001, la France, petit à petit, reprend son sillon et elle pourrait rayonner, enthousiasmer bien plus en acceptant, en accueillant nos amis venus du monde entier.
Ah oui, ça c'est fondamental.
Et est-ce que vous seriez d'accord avec cette espèce de renouveau, rebond possible ?
Si on veut que les gens s'intéressent à nous, il faut que nous nous intéressions aux gens. Il faut que Paris redevienne un pôle accueillant pour les élites du monde entier, comme c'était le cas encore au début du XXe siècle, dans le domaine de la peinture, de la musique, de l'architecture, bon bref, de la philosophie, de la littérature. Voilà. Mais en ce moment, il y a une bataille qui va se jouer. C'est la bataille des langues vivantes. Si on veut que le français et la francophonie tiennent un rang honorable et jouent leur rôle au cœur, au sein de la mondialisation, de la civilisation universelle en gestation, comme je le dis souvent, eh bien, il faut veiller à ce que dans l'Union européenne, il y ait deux langues étrangères obligatoires dans l'enseignement de tous les pays européens. C'est là le salut du français. Parce que sinon, s'il n'y a qu'une seule langue étrangère, ce sera l'anglais. Donc, la bataille, elle est gigantesque, elle est formidable. Il faut, là-dessus, il faut que nos hommes politiques, je lance un appel à tous nos hommes politiques, de gauche comme de droite, là-dessus, c'est une bataille fantastique. Monsieur Alain Juppé, lorsque nous avions fait une session du Haut Conseil réservée au problème des langues en Europe, l'avait vu à juste titre.
Au fond, pour le français et pour la France, la bataille se joue d'abord en Europe,
oui,
même si elle se joue,
oui,
ensuite ou en même temps avec d'autres. Alors, pour arriver une sorte de conclusion qui n'en est pas une, nous aurons l'occasion d'en reparler ensemble, bien sûr, sur tous ces sujets que ça porte. Pour vous, cher Stelios Farrantzis, qu'est-ce qui a été le plus réussi finalement durant cette période du Haut Conseil de la Francophonie? Qu'est-ce qui vous a ému le plus, touché le plus dans un ou deux éléments ou trois éléments?
Ce qui m'a ému le plus, c'est de voir une conteuse acadienne comme Antonine Maillet parler avec des Mauriciens. C'est diagonal. La francophonie, c'est l'univers des diagonales.
Très beau
Roger
terme.
Cagua disait « Seuls les diagonales sont sacrées ». Eh bien, voilà, nous avons, j'ai vécu ça de très près. Hein, ce Vietnamien interpellant nos amis africains, etc. Bon, j'ai vu ça, j'ai vu cette polyphonie, ce cœur à plusieurs voix. Ça, ça a été une chose réussie, et notamment, mais pas exclusivement, au moment des sommets qui se sont tenus, comme vous le savez, à Paris,
tantôt dans un
voilà,
lieu.
À Québec, à Dakar, ensuite à Hanoï, bon, Cotonou, bon, voilà. Et puis, ce qui m'a intéressé, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire de voir que spontanément, sans que ce soit le résultat d'une pression quelconque, des auteurs choisissent dans le monde entier, hein, le français comme langue d'expression, parce qu'il y a une beauté, il y a une rigueur.
Une nécessité.
Parce que, comme disait un ministre du gouvernement Allende, ministre de l'Agriculture, je crois, le français par excellence demeure par excellence la langue de la conversation et de la diplomatie, parce que Paul VI parlait du magistère de la langue française. Et voilà, mais vous comprenez, moi je veux dire à tous nos auditeurs, parce que souvent on me taxe de néocolonialisme ou de soupçon d'impérialisme, je ne sais
pas
trop
vous,
quoi.
Pas vous,
oui,
pas
alors
vous,
que
pas vous.
j'ai des preuves que dans toute ma vie, que je ne peux absolument pas être accusé de cela. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je suis historien et que les qualités de la langue française n'ont rien à voir avec le racisme. Ce sont des qualités qui sont le fruit de l'histoire. Je disais à mes étudiants en Sorbonne, 1636, le CID, 1637, le discours de la méthode de Descartes, 1635, la création de l'Académie française, 1643, la bataille de Rocroi, tout ça, ça se tient dans un mouchoir de poche.
C'est magnifique. Notre entretien aujourd'hui arrive à sa fin. Et s'il y avait évidemment deux mots que vous deviez choisir ou choisir l'un d'entre eux, soit la puissance, soit la sagesse, je crois ne pas hésiter beaucoup pour savoir lequel vous choisiriez. Ça serait la puissance ou la sagesse ?
La sagesse.
Merci Stelios Farrantzis et à très bientôt.
Merci.